lui, pour le président, d'après lui-même. C'était aussi une question d'orgueil. Vous savez que le président Obiang, c'est un des chefs d'État panafricanistes du moment. Ça fait du temps qu'il est en train de lutter pour essayer de donner une direction à l'Afrique, pour essayer même de réveiller les consciences de tous les Africains vis-à-vis de beaucoup de problèmes que l'Afrique a. Donc, pour le président Obiang, c'était une question, comme je vous ai dit, d'orgueil tout d'abord, parce qu'il sera vraiment la honte que la Coupe d'Afrique aille se jouer au-delà de l'Afrique, ailleurs. Donc ça sera vraiment la honte. Bon. D'un autre côté, si vous vous souvenez, le président Obiang, grâce à lui-même, on a maintenant un prix qu'on appelle le prix UNESCO Guinée-Équatoriale qui a pour but, vous voyez, encourager les investigations dans les sciences de la vie pour tout type de chercheurs qui sont en train de faire des investigateurs qui sont en train de faire des recherches dans les sciences de la vie. Vous savez que par la raison d'être un pays tropical, il y a des maladies qui sont, voilà, des maladies tropicales, jamais mieux dit. Voilà le palu, voilà la tuberculose. Il y a d'autres maladies qui sont finalement arrivées. Voilà l'Ebola même, voilà le VIH. Et bon, le président Obiang, ayant compte toutes ces circonstances, il a décidé de mettre en place un prix pour encourager, au-delà des nationalités, des gens, des investigateurs, tous les efforts que les gens vont faire pour aider à améliorer la santé de tout le monde. Ça, c'est la raison pour laquelle il a décidé de mettre en place ce prix qui aujourd'hui est heureusement accordé par l'UNESCO. Donc, la dernière édition, c'était à Malabo l'année passée, et les lauréats étaient trois différentes personnes, donc un Africain vis-à-vis de sa recherche dans le domaine de l'agriculture, un Iranien vis-à-vis de sa recherche, je crois, sur ce qu'on appelle cellules mères, quelque chose comme ça, cellules madres, et un institut de la Latino-Amérique. Aussi, des recherches sur santé. Donc, l'effet d'héberger la CAN, ce n'est pas, disons, quelque chose isolé, vous voyez, c'est toute une politique que le président Obiang mène depuis, et que c'est peut-être maintenant que beaucoup de gens viennent s'apercevoir, parce que là où on parle du football, toutes les attentions sont focalisées sur là. Donc, il a eu la vision quand on lui a fait la proposition. Une vision que, à son moment, a généré des critiques. Il y a même des citoyens équato-guinéens dans la diaspora qui ont certains médias, surtout à l'Internet, qui se sont frontalement opposés. Mais voilà que dans les dernières semaines, tout le monde est maintenant dans la même page, tout le monde est en train de féliciter la sélection nationale, de féliciter le pays pour l'organisation. D'habitude, on a deux ou même peut-être trois, quatre ans pour organiser la CAN, mais la Guinée équatoriale a eu même moins de deux mois pour organiser la CAN. Donc, depuis le début, on savait que peut-être on ne sera pas en 100%, mais on est vraiment fiers de que tout se passe bien. Je crois que c'est presque un miracle. Beaucoup de gens ne croyaient même pas qu'on pouvait organiser la CAN. Mais on est là, on est maintenant dans la demi-finale.
Quel est l'état des médias en Guinée équatoriale?
Vous savez que les médias, c'est tout d'abord des entreprises privées. Donc, au niveau de la presse, par exemple, on a des organes de l'État. Voilà, Ébano, Porto-Poto. Il y a un peu plus d'une dizaine des organes privés. En tant des organes privés, ce sont des entreprises qu'il faut gérer comme des entreprises. Comme vous le savez, la presse ne se soutient pas tout simplement avec le prix de vente au public. Il faut donc des stratégies de la pub. Bon, c'est une entreprise qu'il faut mener comme une entreprise. Donc, on a connu des organes qui, après quelques mois de parution, ils ont stoppé par une question de gestion. Mais il y a d'autres qui fonctionnent. Depuis le ministère, on est en train de discuter, d'étudier une stratégie pour encourager la presse. Il faut aussi savoir que dans nos pays, le prix du papier, n'étant pas producteur du papier, le prix du papier, c'est le double que n'importe dans quel pays dans l'Occident. J'ai vécu en Occident, j'ai étudié journalisme en étudiant en Occident, et historiquement, l'Espagne, par exemple, a eu un syndicat du papier. Donc, avec des prix subventionnés, avec des politiques de vente. Donc, quand tu pars payer le papier, le prix qu'on te fait, ce n'est pas le même prix qu'on fait à quelqu'un qui est déjà dans le syndicat. Donc, ce sont des stratégies qu'on cherche de mettre en place. Et, au niveau de notre ministère, on est en train d'étudier et on espère pouvoir matérialiser une imprimerie nationale qui va encourager toute la presse avec une politique de prix qui va lui permettre de mieux fonctionner. Et ça sera un peu l'aide que le gouvernement peut faire parce qu'on a, dans le passé, on a essayé, vous voyez, à donner des appuis économiques, mais ça n'a jamais marché, parce que dès que quelqu'un prend l'argent, ça finit par se gaspiller. Donc, on va essayer de mettre une structure qui va permettre aux gens de fonctionner dans une situation très, très compétitive. Donc, mais ça va aller.
Et à ce point-là, ça vient de la question de la liberté de la presse. Les organisations internationales de droits de l'homme et tout ça expriment qu'en Équatorial Guinée, la liberté d'expression n'est pas tellement ouverte. Qu'est-ce que vous en dites à ça?
Bon, on a une loi de presse, la loi numéro 6 du mois de mai 1997, je crois, qui est une loi très avancée. C'est une loi comme les lois que vous pouvez trouver dans les autres pays. Mais je crois qu'il faut faire la différence. Il faut, en tout cas, prendre la conscience des limites de la liberté de presse. Voilà, il y a une liberté de presse. En tant que journaliste, je vous assure que la loi, cette loi de 1997, je crois, n'est pas encore une loi, disons, qui est devenue vieille. C'est une loi qui a tout le nécessaire pour une évolution de la presse. Mais malgré, même les gens les intéressés, c'est-à-dire les propriétaires des organes de presse, je crois qu'ils n'ont même pas essayé de l'appliquer ou d'essayer de, vous voyez, d'utiliser. Vous voyez, dire au gouvernement, voilà, on est arrivé jusqu'ici, il faut maintenant améliorer. Mais il faut faire la différence, il faut connaître la limite de la liberté de presse. On ne peut pas, en prenant comme argument la liberté de presse, insulter offensé aux gens. Vous voyez, on ne peut pas commencer à commettre des crimes en s'emparant dans la loi, dans la liberté de presse. Donc, la loi est là, la liberté de presse et d'expression est là, mais aussi les gens ont leurs droits à leur honneur. Bon, si vous voulez, si vous venez, par exemple, moi-même, à m'accuser d'avoir volé, même si je suis un fonctionnaire public, je suis un ministre, vous pouvez le faire. Mais en tant que citoyen, j'ai aussi le droit de vous amener au tribunal. Et vous, c'est à vous maintenant de venir prouver au tribunal, devant le tribunal, qu'en effet, j'ai volé. Si vous ne pouvez pas les trouver et les prouver, donc vous avez commis un crime et vous pouvez être poursuivi et même être puni. Dans une situation dans laquelle il y a, dans le système, dans le pays, tout le monde n'est pas toujours d'accord avec le gouvernement. Donc, disons, et ça, c'est normal dans la politique, d'accord? Donc, il y a des gens, il y a des groupes qui systématiquement, si le gouvernement dit oui à une chose, n'importe sur quoi, ces groupes-là, ils vont toujours dire non. Si le gouvernement dit non, ils vont systématiquement dire oui. Donc, on est habitué, c'est comme ça. Mais, ça, c'est la, vous voyez, c'est ça qui fait la démocratie grande, c'est ça qui fait la tolérance grande. On sait qu'ils sont là, ou on est ici, mais bon. La loi est là, je crois que la loi est bonne, et il n'a qu'à prendre la loi et l'appliquer.